This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Daron. Je suis Fabrice, je suis votre hôte et cette semaine, je vous propose d'écouter l'histoire de Daniel Guichard. Celui qui est connu pour son tube légendaire Mon Vieux nous parle de son daron dans son vieux par-dessus râpé et de la portée de cette chanson qui a marqué tant de monde. On parle aussi de ses 7 enfants bien sûr, des 4 avec qui il travaille aujourd'hui au quotidien, de son rôle de daron quand il était plus jeune et de son anniversaire à venir puisque Daniel Guichard fête ses 70 balais fin novembre à l'Olympia. Je vous mets les liens pour réserver les places dans les notes du podcast. Ce podcast est désormais propulsé par Rocky, R-O-C-K-I-E, le magazine pour accompagner les femmes et aussi les hommes qui le souhaitent dans leur vie d'adulte. Abonnez-vous à notre newsletter sur RockyMag, R-O-C-K-I-E-Mag-M-A-G.com pour ne manquer aucun futur épisode. Si vous aimez Histoire de Daron, abonnez-vous au podcast sur vos applis de podcast préférés, Apple Podcasts sur iPhone ou Podcast Addict sur Android, mais vous pouvez aussi retrouver Histoire de Daron sur Deezer, sur Spotify, sur SoundCloud et même sur YouTube. Je vous mets tous les liens dans les notes de ce podcast. Et je vous précise que même si vous écoutez un podcast, n'hésitez pas à venir laisser un commentaire sur l'épisode sur YouTube, ça me fait toujours très plaisir de lire ce que vous avez pensé de l'épisode. Je vous mets l'adresse de la chaîne dans les notes. Enfin, si le concept vous plaît, parlez-en autour de vous, partagez sur vos réseaux sociaux. Le bouche à oreille, c'est encore le meilleur moyen de faire connaître ce programme. Je vous donne rendez-vous à la fin de l'épisode pour plus d'infos, mais d'ici là, je vous souhaite une bonne écoute de l'entretien avec Daniel Guichard. On est avec Daniel Guichard, salut Daniel.
Bonjour.
Ça va ?
J'ai connu pire, ça va.
Merci beaucoup de venir dans l'histoire de Daron.
C'est une bonne formule, les darons me plaisent bien, ouais.
Ok, bon super. Alors pour la petite histoire, c'est ton fils qui m'a envoyé un message pour me dire j'adorerais que mon père passe dans ton émission.
Ben voilà.
Il a plein de choses à raconter, etc.
D'abord parce que j'ai pas souvent l'occasion de parler, il m'enferme dans un placard, il me laisse sortir de temps en temps, donc si je peux avoir la permission de parler, j'y vais à fond les manettes.
Ben voilà. Alors là, on a une heure ensemble si tu veux, donc
ça va, ça marche.
On va pouvoir raconter plein de trucs. Donc l'un des trucs, c'est que tu travailles avec ton fiston.
Ou c'est lui qui travaille avec moi. Ah. On travaille ensemble. D'ailleurs, on ne sait plus qui travaille avec qui, parce qu'en règle générale, je suis plutôt les conseils de mes mômes. Enfin, sur les 7, il y en a 4 qui travaillent directement ou indirectement avec moi et qui sont plutôt de bons conseils, oui.
Donc, t'as 7 enfants.
J'ai 7 enfants, oui. La première a 49 ans, le dernier, il a quel âge ton frangin ? 22, 23 ?
22.
22.
Il y en a tellement.
Ouais, c'est pas ça, c'est parce que mes anniversaires, je les fête pas, et ceux de mes mômes, je sais quand est-ce qu'ils sont nés, mais je sais plus quel âge ils ont. Même.
Ouais, je comprends. Donc, on est ici pour parler d'histoire de daron, on est aussi ici pour parler de.
D'enfant.
Ta paternité, ouais. de comment t'es devenu père, etc.
Ouais. Bah, l'image est simple, si tu veux, ma fille est née à 49 ans, et c'est vrai que j'ai la sensation et l'impression d'avoir toujours vécu chez mes mômes. C'est-à-dire que ça n'a l'air de rien, ça veut rien dire vivre chez ses enfants-ci, parce que un bébé, c'est des couches culottes, c'est un youpala, c'est des jouets, c'est des ballons, c'est des soldats, des vélos, c'est des coups de feutre sur les murs, c'est les enfants qui dorment pas bien, qui ont des fièvres, des choses comme ça. Donc tu passes ta vie à encadrer les enfants, à faire en sorte qu'ils aillent le mieux possible, ils grandissent, ils sont pas trop chiants, mais mes enfants ont pas été véritablement chiants, mais t'es toujours un petit peu sur le qui-vive, inquiet de ce qui pourrait leur arriver. Et ils se succèdent. C'est-à-dire 7 enfants, de 49 à 22, j'ai eu le temps d'être occupé. Et comme Joël est un peu dans le secteur, il habite là, Gabriel est venu quelque temps habiter de nouveau. Gabriel, c'est son frère qui est un peu plus âgé, qui a une trentaine d'années, qui fait de la musique. Ils sont là, ils vivent leur vie ailleurs, ils reviennent, enfin bon, on a la chance d'avoir plusieurs maisons de l'espace, ils sont là, et j'ai vraiment la sensation d'être chez mes mômes. Et comme leurs conseils actuellement sont plutôt bons, ma vie, mon décor, tout évolue intelligemment. Ouais.
Ça s'est fait assez naturellement en fait de finir par travailler avec tes enfants
ou... Oui, mais ça se fait naturellement. Moi j'ai un côté tribal, patriarcal.
Patriarche, ouais.
Non mais pas patriarche, un côté légèrement patriarcal, pas trop, parce que il arrive quand les trois frangins sont à table ensemble et qu'ils disent des conneries, ça n'arrête pas de rigoler. Ils peuvent être avec leur chérie, ça change rien. Ils sont toujours un peu débiles à rire. J'essaye même pas de m'immiscer dans la conversation, ils m'écoutent même pas.
Tu veux dire que tu les laisses dire des conneries, c'est ça?
Ah, ils sont très forts. À titre individuel, les trois garçons, les trois derniers, sont d'un humour mais redoutable. Les trois ensemble, c'est mortel, quoi. Leur chérie ne lutte même pas.
Ah.
Elles sont là, elles sont même pas désastrées, dévastées, rien. Elles se marrent et elles les laissent faire. C'est des gamins, enfin c'est des grands gamins qui sont très drôles. Ouais.
C'est quoi comme style de connerie?
Oh non, c'est un racontable. Faudrait que tu viennes à la maison, tu vas comprendre.
Comment t'es venu à vouloir avoir des enfants, toi?
Je sais pas, on m'a pas vraiment expliqué comment il fallait faire pour pas en avoir.
Ah.
Donc j'ai eu ma première fille, Guénaëlle, j'avais 20 ans. Et puis après, il y a eu 4 ans après, Armel. Et puis 2 ans après, il y a eu Anaël. Et puis un peu après, il y a eu Emmanuel. Et puis après, il y a eu Gabriel. Après, il y a eu Joël. Et après, il y a eu Raphaël. Voilà. Donc les enfants, j'adore, moi. J'adore les bébés. Je suis capable de langer des bébés, de les changer, de les baigner, de les nourrir, de leur donner des biberons. Enfin, je sais faire ça.
T'as réussi à composer ça?
Enfin, mais c'était prioritaire.
Ah.
Et ça a toujours été prioritaire. C'est-à-dire que quand il y avait le choix entre la carrière absolue et les mouflets, c'était les mouflets qui gagnaient. Les trois premiers ont eu la bonne et la mauvaise période de ma vie. C'est-à-dire le début, j'étais inconnu, on n'avait pas trop de pognon. On n'en avait pas du tout d'ailleurs. Et le succès a commencé à arriver. J'ai fait beaucoup de galas, beaucoup de spectacles, beaucoup d'argent qui rentrait. Il y avait beaucoup de choses qui fonctionnaient. Il y a une espèce de confort relatif et un sérieux qui s'est installé. Donc les premiers ont eu le contre-coup de papa pas souvent là, papa qui faisait un peu le con, qui courait partout. Et puis je me suis relativement vite arrêté de ça.
Pourquoi c'était trop pour toi?
Non, mais je détestais partir de chez moi d'ailleurs. Quand on fait le métier que je fais, c'est pas un métier d'ailleurs. Quand on fait cette activité et que on n'aime pas partir, je déteste faire mes bagages. C'est pour ça que on pose toujours les questions un peu gonflantes. Bon, vous êtes en camping-car? Bah oui, je suis en camping-car. Il fait 7,5 tonnes, il fait 10 mètres de long. On va pas passer l'année là-dessus. C'est un outil de travail. C'est-à-dire des gens pourraient vous dire, oui, bah j'ai une berline. Voilà, je me déplace avec une voiture. J'ai un grand coffre. Et ben moi, je déteste partir en voyage. Je déteste partir en tournée. C'est le fait de faire les bagages qui me gonfle. Mais une fois que tout est dans le camping-car, le coffre, les costumes, les guitares, les machins, tout est là, c'est fini. J'ai la maison qui roule.
Et donc tu disais que tu avais...
Je détestais à l'époque.
Oui, c'est ça.
Je détestais partir. C'est-à-dire, il fallait faire les bagages, il fallait remplir le coffre avec les guitares, les costumes, les vêtements, partir en gala, sortir tout dans la loge, chanter, remonter, aller à l'hôtel, repartir. Ça me gonflait.
Tu faisais tout ça tout seul, même à l'époque?
Non, mais j'avais des musiciens, j'avais des techniciens, mais il y avait tout un tas de choses autour. Il y avait tout un tas de choses. Je me suis arrêté plusieurs fois de chanter. C'est-à-dire que je finissais des contrats, des tournées, et puis pendant un an et demi, je chantais plus. Ça me gonflait. Parce que c'était pas le fait de chanter qui me plaisait. Moi, je me suis toujours marré sur scène. D'ailleurs, je chante, ça m'amuse, je me trompe. Les gens qui viennent me voir, ils viennent parce qu'ils m'aiment bien et donc ça fonctionne. C'était tout ce qui était autour. La structure est compliquée. Là, j'ai la chance d'avoir Joël qui, lui, est plutôt pointu au niveau de la production, au niveau de l'organisation. C'est très compliqué, c'est très sérieux, la production de spectacle. Et tout ce qui est l'organisation autour est très sophistiqué. Alors, entre lui, sa sœur, qui est plutôt dans la communication presse et qui chante avec moi sur scène quand elle a envie de faire chanteuse, plus le petit qui fait de la com, Raphaël, ça va, c'est très organisé autour de moi, oui.
Et alors, t'avais comment dire, c'était une volonté de ta part de vouloir travailler avec tes enfants?
Non, c'est eux qui sont venus.
Ouais.
Ils ont vu que papa il brassait. De temps en temps, j'étais à côté de mes pompes et quand les choses me gonflent, je laisse tomber. C'est-à-dire, la vie est trop courte, j'ai pas envie de m'emmerder. Et puis ils voyaient bien que il y avait des choses à changer, à transformer, à organiser pour que je sois plus heureux. Donc leur souci numéro un, c'est on va faire ce qu'il faut pour que papa soit un peu plus heureux. Et à partir de là, bah, ils se sont mis les uns et les autres à des postes, à des places. Ils ont commencé à améliorer certaines situations, à arranger le côté promotionnel, à arranger le côté structure, à arranger le côté organisation. Et c'est vrai que ça fonctionne mieux.
C'est fou.
Mais je savais le faire tout seul. Sauf que quand on prend 3-4 personnes qui travaillent vraiment bien, intelligemment, et c'est beaucoup de travail autour, et qu'on se dit je faisais tout seul, il y a des trucs que je foirais, mais je faisais beaucoup de choses tout seul, j'apprenais tout seul. Donc je me suis dit, le boulot, ils le font vraiment bien. Et c'est très précis, d'un point de vue organisation, d'un point de vue droit d'auteur, d'un point de vue fiscal, d'un point de vue hôtel pour toute l'équipe. Quand on part, il y a une trentaine de personnes qui bossent. Donc faut, ça mange, ça dort, ça s'organise, il faut que tout ça soit pointu, on ne peut pas avoir des problèmes. Genre, je suis le daron sympa avec mes mômes. Hein.
Pourquoi tu dis que tu es le daron sympa ?
Parce que ils sont efficaces et qu'ils sont, moi je les admire, ils sont respectables et ils m'emmerdent pas quoi. Mais si je vais à côté, ils vont me reprendre en disant papa t'es mal coiffé ou ta chemise c'est nul, t'habilles pas comme ça ou voilà. Ils viennent pas me gonfler sur le tour de chant sur les chansons, mais ils me font des suggestions parce que ils se sont intéressés à tout ce que j'ai fait. Et je m'aperçois qu'il y a des chansons qui me citent quelquefois. Non, pourquoi tu chantes pas ça ? C'est une chanson qui a 40 ans que moi, je l'ai mise dans un coin, je l'ai enregistrée, je l'ai jamais chantée, et en fait, c'est un demi petit chef-d'œuvre, quoi.
Et ben,
je fais. J'écoute, je me dis, tiens, merde, c'est vrai, j'avais pas pensé à ça. Je l'écoute, je la chante, et ils avaient raison.
Oh. C'est bien.
Bah, plutôt, ouais.
Quel genre de père t'as été en tant que.
Quand je suis en colère et que je file des coups de pompe dans les portes, et que je gueule comme un putois, ou en temps normal?
Bah, les deux.
Bah, c'est-à-dire quand je gueule et
tu l'as encore en vieillissant
ouais ça m'arrive rarement mais de moins en moins souvent, mais ça arrive quand je pique une grosse gueulante. Bon, en règle générale, il fallait que ça sorte et il y a plein de trucs qui étaient un peu la cause de ça, mais sinon je suis plutôt du genre honnête. Ouais, je crois que je suis plutôt honnête avec mes mômes. Je n'ai pas été chiant, je les ai pas brimés, bridés, secoués. Ils voulaient faire un truc, si c'était pas une connerie, ils y allaient, ils faisaient.
Tu les as éduqués dans une forme de liberté, c'est ça, t'as la sensation ?
Relative, ils sont dans une liberté qu'ils gèrent eux-mêmes, et ils le gèrent plutôt bien. J'ai une confiance absolue quand ils étaient mômes. Ils n'ont pas véritablement fait de grosses conneries, ils ont fait des petites blagues d'adolescents, mais rien de méchant. Et ils ont été... Ils ont analysé la vie, peut-être à ma façon de voir aussi, je leur ai apporté aussi une forme de regard, et ils ont adapté leur vision de la vie des gens. Ils sont assez percutants quand ils analysent quelqu'un.
T'as des souvenirs, toi, du moment où tu t'es rendu compte que t'allais devenir père ?
J'ai appris que j'allais avoir une fille la première fois. Bon, bah, ça s'est passé. Et puis c'était super, et puis les autres enfants ont suivi, et c'était bien. Moi je me pose pas, j'ai
pas
d'état d'âme.
Tu t'es pas trop posé de questions ?
Non, les enfants sont prioritaires, il faut être sur le pont pour les tempêtes. Quand on en prend plein la gueule, qu'on fait des erreurs et qu'il faut assumer, il faut être là. La seule chose à faire c'est être là, et pas dire je veux que vous fassiez comme ça, je veux que vous fassiez... Non, les enfants ils font comme ils ont envie, et il faut simplement être là pour les coups durs, c'est tout. Et puis s'il n'y a pas de coups durs, tant mieux, hein.
Quand tu dis faire des erreurs, tu parles de quoi en particulier ?
On fait tout le temps des erreurs. On fait des erreurs de jugement, de relations. On fait confiance à des gens. On fait des investissements dans de l'activité, dans des travaux. On fait toujours des erreurs. Elles sont plus ou moins chères à payer. Elles sont plus ou moins compliquées. Et les contre-coups, faut les assumer. Donc les enfants y sont pour rien. Et quand on fait des erreurs quelquefois, pas volontairement, ou même des malhonnêtetés du monde extérieur, faut les assumer. Et dans ces cas-là, il faut être là pour que tout le monde ait à manger, pour que le toit soit sur la tête et qu'il n'y ait aucun problème d'aucun ordre. Voilà. Et ça fonctionne.
Son vieux par-dessus repli, il s'en allait l'hiver, l'été, dans le petit matin frileux. Mon vieux.
Alors cette fameuse chanson dont tout le monde te parle, là, on est arrivé dans la rédaction,
oui.
Tout le monde a dit « Ah mon vieux », etc.
Oui.
Et tu disais des anecdotes sur mon vieux, j'en ai des...
Ah il y en a plein, mais parce que le problème est simple, cette chanson elle a 45 ans aujourd'hui, elle est sortie en 73, ça veut dire qu'en 45 ans il s'est passé tellement de choses pour tellement de gens, des gens que je connaissais même pas, que je soupçonnais même pas, des anecdotes, il m'en est arrivé de toutes sortes avec des inconnus, il m'est arrivé un jour dans un avion de ligne, on était sur un grand vol, un homme très riche probablement, parce qu'on était en première, bon, on voyageait, et cet homme très riche m'a parlé, au bout d'une heure, deux heures qu'on est en l'air, on en a pour une douzaine d'heures à voler ensemble, il m'a dit, tiens, je voulais vous dire que votre chanson, mon vieux, m'a beaucoup touché, parce que ma vie c'est un peu ça. Je lui ai dit, bah écoutez, apparemment, au niveau financier, matériel, vous n'avez pas la même... Non, je suis banquier. pas employé de banque, je suis banquier. Il avait une banque à lui, je lui ai pas demandé son nom ni sa carte. J'ai une banque, mais mon père, je l'ai quasiment jamais vu. On le voyait un peu pendant l'été, mais il ouvrait la banque, il fermait la banque, on se voyait jamais et on se parlait pas. Et quand j'écoute mon vieux, bah, ça me fait la même chose parce que, voilà. Et lui, c'est un banquier. J'ai eu un pâtissier un jour qui m'a raconté la même chose. Et j'ai eu des artistes de variété qui m'ont raconté ce que la chanson avait déclenché chez eux. Mais il s'est passé 45 ans, donc elle ne m'appartient plus, cette chanson. Il y a des tas de gens qui disent, cette chanson, c'était mon grand-père, c'était mon père, c'est la chanson préférée de mon père. Quand vous avez quelqu'un qui vient vous dire, français d'origine portugaise, et qui le père a demandé à être enterré avec son disque portugais. Mon vieux, il voulait être enterré dans son cérémonie, il voulait le disque, mon vieux. Et pendant la cérémonie, il passe, mon vieux. Et ce jour-là, je me suis dit, bon, il y a un truc là. Il se passe quelque chose de plus profond qu'une simple chanson.
T'as écrit cette chanson en 1964.
Oui, en 72. L'album est sorti en 74, mais la chanson, elle sortait deux par deux, les chansons à l'époque. La chanson est sortie en 73, elle avait été enregistrée déjà en 62 par des artistes qui étaient des copains de Jean Ferrat, mais avec d'autres paroles. La majorité des paroles étaient beaucoup plus militante, beaucoup plus sociale, chemin de fer, la misère, enfin il y avait des tas de paroles qui me plaisaient pas du tout. Donc comme j'entendais Jean Ferrat la chanter à la guitare, j'ai demandé à changer, j'ai changé les paroles, j'en ai fait quelque chose de totalement autobiographique, et ce que je chante, c'est ma vie, c'est comme ça que ça se passait avec mon père, et voilà, c'était aussi simple que ça.
T'as perdu ton père très jeune ?
15 ans.
T'avais 15 ans ?
Ouais.
Ça n'a pas été compliqué pour toi de
non,
devenir
père? Non, parce que je m'en suis pas rendu compte de cette perte quand j'avais 15 ans. Et quand je suis devenu père, j'ai pas eu le temps de m'en occuper. D'ailleurs, je me suis occupé du bébé, de la maman, et il y avait des merdes matérielles à régler. Et tous ces soucis, ils étaient prioritaires. Les états d'âme, on les a pas. On a des états d'âme quand tout va bien et qu'on a plein de personnel qui fait tout le travail et qu'on a du temps pour réfléchir. Quand il faut aller au charbon, on n'a pas de temps d'avoir des états d'âme.
Ok.
Ça le mérite d'être clair.
Pour revenir à cette chanson, tu disais tout à l'heure qu'il y a des tas de gens qui ont récupéré cette histoire
à titre personnel.
À titre personnel.
Oui, mais ce sont des émotions qu'ils ont à titre personnel. Par exemple, les quelques personnes que j'ai citées, que ce soit le banquier, le pâtissier ou des chanteurs de variété très connus qui m'ont raconté leur histoire, ils ont raconté ce que moi je ressentais, c'est-à-dire cette incommunicabilité entre père et fils. Mais c'était d'autres générations. Mon père, personne l'a pris dans les bras pour lui dire « je t'aime ». Personne lui a fait des caresses, il savait pas ce que c'était. Ma mère non plus. C'est-à-dire que même eux, quand ils nous prenaient dans les bras, ce qui arrivait parce qu'ils ont dû nous prendre souvent dans les bras, ils nous disaient pas « je t'aime ». Ma mère me l'a jamais dit, ou elle me l'a dit à la fin de sa vie, quand on disait « je t'aime », mais parce qu'il faut le dire, mais on sait pas dire, parce que personne n'aura appris. Donc à partir de là, il y a des non-dits, il y a des silences, il y a est-ce qu'il m'aime, est-ce qu'il m'aime pas. Bon, j'ai pas eu le côté rébellion à la con chez moi, le problème se posait pas de cette façon. Et il y avait ce côté, on se parle pas vraiment des choses profondes. Et les générations d'aujourd'hui, par exemple, j'ai une anecdote très simple. Je chantais au Palais des Sports, et au Palais des Sports, il y avait le silence dans la salle, donc je chante, mon vieux, et puis derrière moi, il y avait mes musiciens, et puis il y avait ma fille qui chante comme choriste avec la pianiste, et puis j'ai appris que pendant que je chantais, mon batteur pleurait, mon guitariste pleurait, ma pianiste pleurait, et ma fille pleurait. Bon, pour des raisons qui leur étaient personnelles. Mon guitariste, parce que son père, il venait de le retrouver, il était très malade, il allait mourir. Mon batteur, parce que son père venait de mourir quelques semaines plus tôt. Ma pianiste, parce que son père était très très malade et qu'il allait aussi décéder. Et ma fille, elle pleurait, et ses copines lui ont dit « mais pourquoi tu pleures? Ton père, il est là. » « Oui, mais je sais qu'il va partir. » C'est une notion que la nouvelle génération a. C'est-à-dire que ce n'est plus l'incommunicabilité, ça n'est plus « je voudrais parler, mais on se parle pas », c'est il est là, mais il va partir. Quand? Dans un an, dans 5 ans, dans 20 ans, dans 50 ans, peu importe. On sait qu'il y a quelqu'un qu'on aime qui va partir. Mais les générations d'aujourd'hui On dit, moi, tous mes enfants, je les ai pris dans les bras, je leur ai dit, je t'aime, même mon fils Joël, qui est, avec qui on bosse, des fois, je dis, ça va, t'es content de me connaître? Ouais, je t'ai dit que je t'aime? Non, bon, ben, ça va, je te le dis. Ce sont des choses, mais, ce sont des choses normales, mais il n'y a rien de plus beau qu'un enfant tout petit qui commence à parler, qui te prend dans ses bras et dit, papa, je t'aime. Moi, j'ai un pote milliardaire, je lui ai dit, tu vois, tes enfants, les premiers pas, tu les vois pas parce que t'as une nourrice qui s'en occupe très bien, donc, monsieur, votre fils a marché. Ah bah très bien, il est au bureau, il est en train de charbonner pour pas perdre de l'argent et pour en gagner beaucoup, et il a pas vu les premiers pas de son fils. Et puis, monsieur, votre fils vient de parler, il vient de dire papa, puis il vient de dire je t'aime. Voilà, c'est très bien. Et bah ton pognon, il sert à rien. Voilà, en gros, c'est ça. Moi, j'ai eu la chance, quasiment avec tous mes enfants, presque tous, d'être là quand ils parlaient un petit peu, quand ils marchaient un petit peu, quand ils disaient papa, je t'aime. Ça n'a pas de prix. Entre l'Olympia et ça, ça n'a pas de prix.
Ah ouais, à ce point-là?
À ce point-là, mais vraiment.
Ah ouais. Ah ouais. Mais tu dis ça aujourd'hui avec le recul? Non,
je disais...
À l'époque, tu t'en rendais compte?
À l'époque, je disais ça aussi. Il a fallu faire de temps en temps des choix. Mais quand il fallait aller charbonner sur des parkings d'hypermarchés ou dans des cabarets à la con ou dans des salles pourries, j'y suis allé parce qu'il fallait faire rentrer de l'argent. Ça ne me gênait pas du tout. Hein.
T'as fait ça?
Oui, bien sûr, oui. Même mon fils Joël, il était tout petit, il venait avec moi. Il était dans les coulisses et il regardait papa en train de chanter. Non, mais il chantait, il venait jouer de la batterie parce que quand il était tout gamin, il avait une dizaine d'années, et quand on finissait les spectacles avec toutes les musiciens et tout, on finissait, je faisais saluer les musiciens, les guitaristes, les choristes, les machins, tout le monde saluait, et à un moment, je faisais saluer le batteur, et il n'y avait plus personne à la batterie. Donc Joël, il allait, il tapait, il apprenait un peu la batterie, donc il tapait, poum, 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 et dès que c'était fini, il tendait la main pour que je lui file du pognon. À chaque fois, ça me coûtait 200 balles.
Putain, tu prends cher en plus, eh.
C'était en francs, bah ça faisait un petit 30 euros
c'est
quand
déjà
même.
Pas 30 euros, c'est un beau dimanche, eh oh.
Ouais.
30 euros la minute. C'est bien.
Ouais. Mais déjà tout petit, il avait le sens du spectacle. Il adorait le spectacle. Mais des trucs pourris, des galères, des machins où aller chanter, j'y suis allé. Ça m'a pas gêné du tout. J'ai pas d'état d'âme. Moi, je sais que s'il faut faire un boulot difficile pour nourrir mes mômes, je l'aurais fait. J'ai toujours eu beaucoup de respect pour tous les métiers qui soient ramasser les ordures, les machins, des trucs comme ça. Et parce que ce sont des métiers utiles. Donc il y a pas de sous métiers. Donc il faut y aller. Quand on se dit il y a pas de souci d'argent à la maison, tout le monde a à manger, tout le monde est
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Habiller le loyer, payer la maison, et là, ça fonctionne. C'est le respect. D'ailleurs, il y a une anecdote un jour qui s'est passée. J'étais dans un hypermarché et à côté de chez nous, à Souviens, on vide toujours des tas de saloperies à la déchetterie parce que, bon, on ramasse des trucs, faut vider. Et puis, j'ai sympathisé avec tous les gars qui font la déchetterie, qui apparemment sont des métiers à la noix. On pourrait dire, mon père, il s'occupe des ordures, des déchets, des trucs. Pas du tout. Heureusement qu'ils sont là, parce que s'ils étaient pas là, on vivrait dans des poubelles. Et un jour, j'ai eu un gars qui était un pote, parce que je le voyais régulièrement. Et je le vois avec ses deux moufles. Il était dans un hypermarché, on faisait les courses. Je suis allé le saluer, il dit, comment tu vas et tout. Et les mots m'étaient sur le cul de savoir qu'il connaissait Daniel Guichard et on était en train de parler. On a parlé tout à fait normal. Parce que si j'avais pu leur dire, votre père il fait un métier formidable, parce que s'il n'était pas là on vivrait dans la merde, c'est une connerie. C'est comme ça que je vois la vie.
T'as la sensation, toi, après avoir pris cet âge là, tu vois, aujourd'hui
70 balais, 50 ans,
tu vas avoir 70 ans là,
au mois de novembre.
Ouais. Au mois de novembre. C'est quoi, avec le recul, c'est quoi les grandes leçons que t'as apprises?
J'ai pas de recul.
T'as pas de recul.
Aucun.
C'est vrai.
J'ai fait que des conneries, j'ai réussi des choses. Quand j'ai tiré les conclusions de mes erreurs, du prix que ça m'a coûté, en affectif, en déception, en chagrin ou en pognon, j'ai fait le compte en me disant, bon, j'essaierai de parfaire. Voilà. Mais je regarde pas derrière, pas trop. Parce que ça sert à rien. Hier n'existe plus, demain n'existe pas. Aujourd'hui, à la seconde présente, on est en train de se parler, mais dans 3 minutes, ça n'existera plus, donc c'est pas intéressant.
Mais t'as toujours vécu comme ça, t'as la sensation ?
Presque toujours, oui.
Ouais.
Ouais. Et... C'est pas facile à vivre pour les autres.
Hein. Oui, j'allais dire oui, comment font les autres pour...
Ben, je sais pas, c'est-à-dire que j'ai projeté, j'ai fait des rêves, j'en ai réalisé quelques-uns, puis je me suis rendu compte qu'il fallait pas trop projeter, qu'il fallait pas faire trop de rêves, et que j'ai une espèce de côté fataliste que ces dernières années m'ont appris et conforté, c'est que quand quelque chose ne se fait pas, c'est qu'il fallait que ça se fasse pas, il fallait pas que ça se fasse. Et je suis beaucoup moins stressé quand je fais les choses, parce que très souvent je me dis, bon allez, je vais faire un truc, je vais le sortir là. T'énerve pas, bon, puis ça sort pas. Et puis je m'aperçois quelques mois après que heureusement que c'est pas sorti. Parce que c'était pas bien, parce que c'était nul, parce que je me serais retrouvé la tête dans le mur et que ça servait à rien. Quand elles doivent se faire les choses, elles se font. Et puis si ça se fait pas, bah ça se fait pas, c'est pas grave.
Tu parlais tout à l'heure de ton côté... Alors, t'as utilisé le terme
patriarcat, mais pas patriarche, ouais.
C'est peut-être pas pareil. Non. Mais ceci dit, tu disais que t'avais tout ton petit monde autour de toi.
Bah, mes enfants sont pas loin, ouais. Mes enfants sont pas loin. Et puis, il y a une relation de quasi-liberté, quoi. Ils me respectent beaucoup. Pour plein de trucs, ils me demandent, papa, on peut faire ça, je peux faire ça, ça t'embête pas, ok, d'accord. Et puis, souvent, on dit, papa, est-ce que tu veux faire ça? Tu devrais faire ça. T'es sûr? Ouais, parce que ceci, parce que cela. Ok, d'accord, on fait. Comment la t'as... preuve, aujourd'hui, c'est ça.
La preuve, si t'es là, t'étais chez Michel Drucker hier, et puis là, ouais. Tu te retrouves là, donc merci. Tu fais un podcast après être passé...
C'est sympa, j'adore.
sur le canapé.
J'adore parce que cette démarche intellectuelle que tu suis est quelque chose qui s'adresse à des gens qui s'intéressent à ce que tu fais. Et ça, c'est fabuleux. Se dire, je fais quelque chose, qui est 3 personnes, 3 000, 30 000, 300 000, 3 millions de personnes qui s'intéressent à ce que tu fais, ça veut dire que tu t'occupes pas du reste du monde, t'en as rien à battre de ceux qui t'aiment pas, t'en as rien à battre de ceux pour qui t'es pas intéressant, tu ne fais que pour ceux qui t'aiment et qui s'intéressent à toi. Quelle que soit la quantité des gens, c'est pas important. Il y a des gens qui, le matin, vont écouter ce que tu fais. Moi, je sais que le matin, maintenant, j'ai pris l'habitude, ça, c'est pas nouveau pour moi, c'est mes mômes. Les 3 derniers garçons, ils regardent pas la télé ou quasiment jamais, ils s'en foutent. Ils sont sur Internet en permanence.
Sur YouTube.
Ils ont leur créneau de séries, de YouTube, d'informations, de musiciens, d'artistes. Ils ont tout. C'est-à-dire que je découvre plein de choses grâce à eux et je me suis rendu compte que le monde est ainsi fait que grâce aux systèmes qui sont là, puisque c'est nous le produit, hein, nous qui nous baladons, c'est nous qui avons une valeur sur l'internet, il y a plein de choses qui intéressent des gens précisément. Et moi, ça m'arrive tous les matins, je me réveille, je prends le café, hop, je vais 3-4 trucs qui m'intéressent, des informations, il y a des gens, il y a Onfray, il y a machin, bon, je vais écouter qu'est-ce qu'ils ont dit, qu'est-ce qui s'est passé en information, qu'est-ce qu'il y a eu comme événement, et après je fais d'autres choses.
Ok.
Et le podcast fait partie de ça.
Ah oui, donc tu écoutes des podcasts aussi.
Oui.
Ok. Tu regardes Netflix, c'est ça ?
Pardon ?
Tu regardes Netflix, c'est ça ?
Oui, oui. Hier, il m'a fait regarder une série qui est Suits, oui. Ah. Mais lui et ses frères, ils sont Netflix, ils sont Internet, ils n'en ont plus rien à foutre. Et ils trouvent franchement que les programmes télé sont tellement nuls, ce que je confirme. Franchement, je crois que je ne suis pas très loin de... quasiment plus regarder la télé, et Dieu sait que j'en ai bouffé pendant presque 50 ans. Ouais.
Ouais, c'est ça, cette génération-là. Ah, t'avais pas la télé.
J'avais
d'accord.
pas la télé avant, et j'ai dû avoir une télé à 22 ans, quoi. 20 ans vraiment. On avait une vieille télé pourrie d'occasion quand on était à 15-16 ans. J'ai eu de la télé, et j'ai bouffé de la télé quand la télé était intéressante. Il se passait plein de choses. Puis il s'en est passé de moins en moins, et il y a de plus en plus de naze. Alors il y a quelques petits trucs, quelques jeux, quelques machins, mais bon, c'est pas mon truc, quoi.
Ok. Comment t'as la sensation d'avoir réussi à fédérer tes enfants comme ça, au travers de peut-être ton éducation?
Mais
je sais
les ai pas fédérés. Ils ont suivi, eux, leur parcours. Fou. Ils s'entendent très bien entre eux. Mais vraiment, ils s'entendent très bien, ils sont très complémentaires dans leur cheminement, dans leur façon d'approcher. Quand ils ont des trucs à se dire entre eux, ils se les disent, ils se font des redressements de cap sans problème. Je les ai pas fédérés.
Mais ça vient d'une éducation, ça, non?
C'est ma façon d'être. Donc, ils adaptent leur façon d'être à leur vision du monde. C'est que j'y sois un peu pour quelque chose, sûrement. Bon, on va même pas parler de génétique, ils ont un peu de papa, un peu de maman. Non, ils ont des cheminements qu'ils ont fait par rapport à leurs potes, par rapport à leur cheminement d'enfant, d'adolescent, leurs réussites, leurs échecs, leurs potes sympas, leurs contre-potes, leurs histoires amoureuses qu'on foirait, celles qu'on réussit. Bon, ils se construisent leur vie et ils ont la sensibilité et le recul qu'il faut.
Ok, je comprends. Comment tu vois, toi, tu parlais justement tout à l'heure des nouveaux parents et des nouvelles générations, etc. Je sais pas si tes enfants ont des enfants.
Certains, oui. Ma fille américaine, qui celle la deuxième, elle est aux États-Unis à côté d'Atlanta. Elle a un petit garçon qui a 12 ans, une douzaine d'années. Petite américaine, elle est américaine. Ma fille aînée, elle a deux garçons qui ont le même âge que mes deux derniers, à peu près. Ils sont entre les deux. Le troisième garçon, il a deux enfants, dont une petite fille, la dernière, doit avoir une dizaine d'années. Et puis pour le reste, ça va. Ils ont des chats. C'est le premier stade de la paternité. Donc ils commencent avec les chats.
C'est une forme de responsabilité aussi.
Oui, parce qu'il faut changer la caisse, et quand le chat pisse dans le lit et tu nettoies, et t'es très énervé. Enfin bon, il y a toutes ces bricoles qui sont assez sympas.
Faire en sorte de pas le faire mourir, quoi, le chat aussi.
Il faut assurer. Ouais.
Je voulais te demander comment tu vois, toi, avec le recul. Alors tu me dis que t'as pas de recul, mais peut-être que ma question est naze. Tu vas me dire. Mais comment tu vois, toi,
les nouveaux parents. Alors moi, je crois qu'il y a plusieurs catégories de parents, comme il y a des multitudes d'êtres humains. Il y a les parents qui voudraient que les enfants suivent le parcours que eux ont prédestiné, et là ils ont tort. Il y a les parents qui voudraient que leurs enfants aient une vision du monde égale à la leur, avec une sexualité égale à la leur, et ils ont tort. Il y a les parents qui voudraient que tout le monde soit dans un rail, eux, enfants et voisins compris, et là ils ont tort. La première des choses, c'est d'être là pour les coups durs. Il faut avoir l'humilité d'être là que pour les coups durs. Il faut être comme les animaux. On élève les enfants jusqu'au moment où il faut leur dire « t'es prêt pour y aller ? Pas encore. Bah, reste encore un peu. » Mais il faut pas dire « surtout, t'en vas pas, reste là. » Chaque individu, chaque garçon, chaque fille grandit, a envie de tenter des trucs. Et si on s'y prend mal dès le départ, on a de très mauvaises surprises, et on voit autour de nous de très mauvaises surprises, parce que les enfants, ils n'ont qu'une envie, c'est de dégager, que ce soit pour des histoires de cœur, de cul, de boulot, de pognon, de choix, de relations, de copains. Ils n'ont qu'une envie, c'est de vivre. Donc moi, je crois pas avoir empêché mes enfants de vivre. Je crois avoir été là quand il fallait, même si tous ne sont pas venus me demander mon avis par rapport à quelque chose qui se présentait. Ils ont su faire comprendre à un moment, il y a ça, et puis la porte a toujours été ouverte pour leur chérie, quoi.
Et si déconner à un moment donné dans l'idée
dans
que t'avais,
sens?
Toi, je sais pas. Si...
Mais déconner, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'oublie que j'ai déconné moi-même, je suis con. Ça veut dire que j'ai été môme, que j'ai fait des conneries, que j'ai déconné gravement, que les très grosses conneries j'en ai faites, que quelque part dans ma tête il y a une espèce de rangement de grenier un peu bordélique, et je vais pas reprocher à mes enfants d'être ce que je suis. Mais par contre, je sais que par expérience, les conneries qui sont susceptibles de les faire, je les ai faites. Donc quand ils sont pas trop cons et qu'ils m'écoutent, je leur dis « ça, tu vas faire, j'ai déjà fait, voilà ce qu'il va falloir penser comme addition ». Ça leur empêche, ça les empêche pas de faire cette connerie, mais comme ils ont déjà une vague idée de ce que ça peut rapporter comme coup dur, ils s'engagent un peu moins. Ça les empêche pas de prendre des tartes, parce qu'ils ont tous mes enfants ont pris des tartes au niveau affectif, ils ont tous pris des coups au niveau confiance, au niveau amitié, ils en ont pris, ils en ont pris moins que si on n'avait pas fait une mise en garde. Ça aurait été beaucoup plus violent. Ça ne les empêche pas, certains d'entre eux, de ramasser comme il faut, quoi. Mais bon, s'ils ont besoin, je suis là, c'est tout. Puis s'ils n'ont pas besoin, ils savent que je suis là quand même.
J'ai cru comprendre. Tu sors un nouveau titre aussi ?
Oui, c'est-à-dire que là, j'ai décidé une fois pour toutes d'arrêter de faire comme je fais depuis 40 ans et comme font à peu près tous mes camarades, c'est-à-dire on faisait des disques deux par deux dans les années 60, 70, 80. Et puis après, quand on avait un succès, deux succès, on faisait un album. Et puis après, on s'est rendu compte qu'avec les CD, c'était économiquement plus rentable de faire un album parce qu'on le vendait plus cher que deux titres, entre le coût de fabrication et le reste. Et donc, tout le monde fait des albums, ou a fait des albums. Et très souvent, on n'a pas de grands tubes dessus. On a des bonnes chansons, mais on n'a pas de tubes. Et petit à petit, eh ben, ça déglingue un peu le métier qu'on fait. Donc, j'ai décidé que j'allais refaire ce que je faisais avant, c'est-à-dire les chansons, bah, il faut déjà un peu les tester devant les gens, et puis il faut les sortir deux par deux, ou une par une, et puis si on s'est planté, c'est pas grave, on en sort une autre. Mais on fait le maximum pour se dire, je fais pas un album parce qu'il faut le sortir, parce qu'une fois qu'il est fait, et une fois que je te l'amène, s'il est foiré, il est raté, c'est tranquille pour un an et demi avant qu'on en sorte un autre.
Donc ton nouveau titre, qui s'appelle...
Si j'avais su, oui.
Si j'avais su.
Si j'avais su tout ce que je sais, tout et rien, j'aurais eu un peu moins de regrets sur mon chemin. Si j'avais su tout ce que je sais, j'aurais oublié.
Tu parles de... plein de trucs de si t'avais su.
Bah, c'est l'air, si j'avais su, il y a tellement de choses, c'est comme tout le monde. Tout le monde se dit, si j'avais su ce que je sais, il y a plein de choses que j'aurais fait différemment. Et puis il y a des choses que j'aurais pas faites. Et puis il y a des choses que j'ai dit, non, il faut pas faire ça, et je les aurais faites. Ou j'aurais peut-être pas parlé comme j'aurais parlé. Parce qu'il y a. On oublie, Brel disait toujours, il faut pas oublier l'enfant qu'on a en soi. Il y a une réalité, il faut pas oublier ce qu'on est, ce qu'on vient d'être et ce qu'on a été il y a pas longtemps. Faut être stupide pour empêcher des mômes d'être cons. Les mômes, ils font des conneries parce qu'on les a faites soi-même. Ou alors, si on est adulte et qu'on n'a pas fait une connerie, c'est chiant. Les enfants qui ont des parents chiants, ils n'ont qu'une envie, c'est de se tirer.
Ça a le mérite d'être clair.
Bah, je crois que c'est comme ça, ouais. Puis j'ai aussi, pour un raisonnement, je disais il y a pas très longtemps, des parents qui chassent leurs mômes, qui les renient parce qu'ils sont homo. Mais c'est des vraies conneries. Si t'as des mômes et que tu les renies parce qu'ils sont homo, prends un chien. Quoique les chiens dans la rue, ils s'enfilent aussi. Donc c'est,
oui, c'est
pas,
ça.
C'est des trucs à la con.
Les mecs, ils abandonnent leurs chiens aussi. Donc tu vois.
Oui, non, mais moi, je considère que si on...
Putain, j'avais pas compris.
Non, mais ça fait rien.
Les chiens dans la rue, ils sont...
Non, mais ça fait rien. Tu prends un seau d'eau et tu jettes. Tu prends un seau d'eau et tu jettes. Non, mais c'est une approche humaine. Si t'as des enfants et que tu les aimes pour la vie. Pour la vie. Et si, quels que soient les choix de vie qu'ils font, t'y es pour rien. Et tu prends comme ça, si tu les aimes, tu les aimes. Si tu commences à dire, oui, j'avais envisagé, t'avais envisagé quoi? Qu'ils aient des enfants, qu'ils se marient, ils peuvent pas se marier. Qu'ils soient garçons ou filles, on s'en fout, bon. À partir de là, tes enfants, t'en as fait quoi? C'était des objets, tu les mettais au milieu des plantes à côté de la télé, t'es con, t'as rien compris. C'est une vision. J'aurais pu avoir un de mes mômes qui m'aurait dit, papa, je suis homo, bon, bah, et alors? Ça change quoi? Je t'aime quand même, hein. Et je veux pas que tu sois malheureux. Ou malheureuse. Ça s'est pas présenté, mais ça aurait pu. Ça aurait rien changé particulièrement à ma vie. Par contre, ça aurait changé la leur, parce qu'à partir de là, ils auraient une vision un petit peu plus saine de l'existence. Le côté exubérant, un peu folle perdue, me gonfle, hein, parce que j'ai travaillé longtemps à l'Alcazar, donc je connais. Il y a un côté folklore qui m'emmerde un peu, le côté démonstratif. Mais je suis comme certains de mes potes homo qui disent, nous on veut avoir le droit à l'indifférence. Point à la ligne, ça change. Les histoires de cul, comme on dit, ça regarde chacun et c'est pas quelque chose qui doit être un handicap dans la vie.
Ok.
Ça aussi, c'est clair.
Ça a le mérite d'être clair. Tu vas faire l'Olympia ?
Ouais,
tu vas fêter tes 70 ans l'Olympia, c'est pas
ouais,
mal.
Ouais, c'est pas mal, ouais, c'est sympa. Donc pour l'instant, je suis pas en déambulateur, donc c'est sympa d'y aller, ouais.
Bah, t'es encore jeune.
C'est sympa de s'entendre dire que je suis... Mais ouais, ça va, je suis encore jeune, oui. Non, mais je fonctionne bien. Le jour où je m'amuserai plus, je le ferai plus.
Oui, c'est ça. C'est un peu l'idée, je pense.
À tout le temps, ça a toujours été ça, oui.
Ok. C'est pas beaucoup de pression à 70 balais de remonter sur l'Olympia?
Non, parce qu'on l'a fait, quoi, il y a deux ans, trois ans.
Il y a 2012.
Ouais, 2012. Ah oui, ça fait quand même 6 ans. Ouais, ça fait 6 ans qu'on a. Hein? Ah oui, on a fait on a fait 2012 l'Olympia, le Grand Rex en 2015, on fait 2018 là.
T'as ton agenda.
Oui, mais c'est-à-dire que on se rend pas très bien compte parce que je suis très pote avec Christian Soulabaille qui est le directeur de l'Olympia et on s'appelle souvent, on se voit souvent, donc on a toujours l'impression d'avoir fait l'Olympia la semaine dernière.
La classe.
Oui, mais c'est bien. Oui, ça fonctionne bien. Il y a pas de pression particulière. L'Olympia, c'est un des éléments de la tournée, des spectacles et de tout ce qu'on fait. Ça fonctionne.
C'est pas un truc, enfin c'est pas une date particulière. Non, pour toi, t'en as fait
non,
plein. Ceci
c'est
dit,
vrai donc... que. Ouais, non, il y a quand même plein de choses autour. C'est quand même une salle mythique parce qu'il y a tout un tas de choses autour. Mais c'est la possibilité pour Paris, pour les gens de Paris et de la banlieue parisienne de venir. Et pour l'instant, on n'a encore pas fait de tournée dans la banlieue parisienne. Il y a des salles magnifiques en ce moment, mais qui n'existaient pas il y a 20 ou 30 ans. Donc un jour, on fera une tournée de la banlieue parisienne. Ouais.
Écoute, je pense qu'on a fait, le tour. J'ai une question d'habitude que je pose à mes invités.
Alors pose.
Mais ça ne marche pas pour toi, tu vas voir. Qu'est-ce que tu dirais à tes fistons et à tes enfants s'ils écoutent ce podcast dans 10 ans? Imagine. Parce qu'en fait, ils peuvent les...
Si les enfants... Alors, très honnêtement, je pense que si les enfants... écoutez mes enfants et les petits-enfants qui, étant entendus, qui me connaissent dans ma façon d'être, dans ma façon de vivre et le reste, parce que mes enfants savent, les petits-enfants, peut-être pas. Mais si les enfants écoutaient dans 10 ans, ils diraient « Ouais, papa, c'est comme ça. C'est ce que je suis aujourd'hui, je l'étais il y a 15-20 ans, et je pense que dans 10 piges, je serai pareil. » C'est-à-dire que ma vision, en gros des choses que j'ai pu exprimer, serait la même.
T'as pas la sensation d'avoir évolué ?
Non. Okay. L'évolution, il y a une certaine maturité, il y a un peu plus de maturité. Je suis un petit peu moins con, c'est tout. Mais en réalité, je suis surtout un petit peu, comment dire, un peu moins péremptoire. C'est-à-dire, j'ai pas d'avis sur tout. Il y a des secteurs sur lesquels j'ai pas d'avis. Puis il y a des fois, je réponds, ça m'intéresse pas. Donc, ça peut être l'élément de l'actualité fabuleux. Tout le monde s'entre-déchire. Je m'en fous, ça m'intéresse pas. Donc j'en parlerai pas. Et puis je suis pas, je sais, je vais vous dire, c'est comme ça qu'il faut faire. Non. Si on me demande mon avis sur quelque chose, je donne mon avis, mais ça n'est que mon avis. Je parle pas au nom des autres. Ben, c'est la seule évolution intelligente que j'ai depuis ces 30 dernières années. Quoi. Je suis un peu moins con. Ouais.
Un peu moins péremptoire, un peu moins colérique aussi peut-être.
Non. Non, mais...
Tu t'es pas assagi avec le temps.
Non, mais le côté colérique, de temps en temps, ça doit arriver quoi, deux fois dans l'année, deux, maximum trois.
Il y a ton fiston qui est en train de... Il lève les
yeux
au
maximum
ciel,
trois. Alors là, par contre, ça dégage. Mais ça dégage.
Il faut se barrer en courant, c'est ça?
Non, on laisse faire.
Les gens s'en souviennent.
Non, on s'en souvient. Même le voisinage s'en souvient. Mais c'est rare, ça arrive rarement. Ouais. C'est-à-dire que... Voilà,
ouais,
ça c'est sympa ce qu'il dit, parce que c'est vrai que quand on analyse, ça a été des strates, de et puis à un moment, c'est le truc de trop, et boum, ça part, et on dit, mais qu'est-ce qui t'arrive, il est fou. Non, c'est que ça fait un moment que je mets en garde, je suis, voilà, et puis boum, ça part. Alors je gueule, je claque les portes, mets des coups de pompe dans les portes, et puis je me calme, je me dis, bah, t'es vraiment naze, il fallait pas s'énerver. Et puis comme j'ai des enfants qui sont vraiment carrés, Joël, Raphaël, ils savent me calmer, me tempérer, et je parle, j'explique pourquoi je suis comme ça, et puis pff, ça y est, ça redevient normal. Et comme le dit Joël, c'est pas sans raison. Je suis pas quelqu'un de bêtement autoritaire qui terrorise tout le monde en gueulant parce qu'il veut avoir raison. Non, c'est parce que c'est une forme de pudeur et d'impuissance à un moment de dire j'ai essayé tout ce que je pouvais, vous avez rien compris. Bon, et boum.
De pudeur et
d'impuissance. Mais je casse pas la vaisselle parce que c'est moi qui la casque. Donc je me suis vengé sur les portes qu'on peut acheter dans tous les Bricoman, Castorama, La Paire. Ça coûte pas cher, on défonce une porte à coup de pompe et on va en changer. Je crois que c'est de l'ordre de 4...
Les camping-cars, elles sont en plastique.
Voilà, c'est ça.
Tu casses ton camping-car aussi ?
Non, mais comme dit Joël, la vaisselle du camping-car est en plastique.
Ah, la vaisselle du camping-car.
C'est pas très gênant si je les jette en l'air, c'est pas grave.
Merci beaucoup, Daniel.
C'était un vrai plaisir.
Bonne
salut.
Bonne vie à toi.
Et à bientôt.
À plus.
Et voilà, j'espère que l'épisode vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à venir sur YouTube et mettez un petit pouce bleu. Ça permettra de faire connaître le podcast. Si vous avez une histoire de daron ou quelque chose qui fait de vous un daron un peu à part, vous n'hésitez pas, vous m'écrivez sur histoirededaron@gmail.com, histoire avec un S, de daron avec un S, @gmail.com. Je vous promets, je fais en sorte de répondre à tout le monde, même si j'ai beaucoup de mails. Enfin, si vous aimez les podcasts, vous pouvez me retrouver dans deux autres podcasts sur mademoiselle.com. Le premier, c'est The Boys Club, un podcast où on parle de masculinité. C'est tous les 15 jours. On invite un mec avec Mimi, qui est la rédac chef adjointe, et on le fait parler de son rapport à son genre. Le deuxième podcast où vous pouvez me retrouver, c'est Laisse-moi kiffer, qui est une sorte de podcast de digression où on parle de plein de choses. C'est toutes les semaines sur mademoiselle.com et dans vos applis de podcast préférés. Et moi, j'y suis tous les 15 jours avec une deuxième équipe. Vous verrez, c'est plein de bonne humeur, on y apprend plein de choses. Et moi, c'est vraiment mon podcast préféré du monde. Je vous donne rendez-vous tous les premiers et les troisièmes lundis de chaque mois pour un nouvel épisode d'Histoire de Daron. Le prochain, ce sera le 19 novembre 2018. Et d'ici là, je vous souhaite une très belle vie.